Après avoir traversé 2 jours durant le pays de Navarre à dos de cheval, Andreas, Robin et Alice arrivèrent en vue de la ville de Burgos, capitale et berceau même de la Castille, dont la fondation se perdait dans la nuit des temps, et qui était très certainement la plus splendide étape où puissent s'arrêter les pèlerins en route pour Compostelle. Après avoir quitté précipitamment Pampelune, ils avaient échangé peu de mots, même lors des pauses qu'ils s'étaient accordées en chemin. Non pas seulement parce que le voyage s'était avéré épuisant, mais surtout parce que l'apothicaire s'était enfermé dans un mutisme qu'aucun des deux jeunes gens n'avait osé prendre d'assaut. Encore perturbé par les paroles du maître de la Schola Gnosticos, par tout ce que son discours, s'il eût été vrai, eût impliqué, et harassé par le manque grandissant de diacode, qu'il eût pourtant pu abréger en achetant en ville chez un confrère une nouvelle dose de Seloc, mais qu'il choisit d'affronter encore un peu, soit qu'il eût soudain décidé de lutter contre cette addiction, soit qu'il préféra noyer les tourments de son esprit dans une souffrance plus corporelle. Harassé, disons-nous, Andreas était taciturne. Et il était blafard. Et il était tremblant. Mais quand la ville de Burgos se dressa devant eux dans toute sa splendeur, ce fut comme si un voile s'était levé de son visage et il sembla redevenir un peu lui-même. Sans doute parce que ce fut en cette ville qu'il avait commencé son apprentissage d'apothicaire et qu'il avait ici de délicieux souvenirs. Si le lecteur y consent, nous essaierons de dresser ici un rapide tableau de Burgos. Flambeau de l'architecture moderne sur toute la péninsule ibérique, inspiration des poètes, Burgos offrait dès ses premiers abords un spectacle saisissant. Appuyé au flanc d'une belle montagne, d'où la dominait son château fort, la ville était au bord d'une douce rivière, dite Arlanza, qui se perdait au loin dans de riants vallons bordés de vignes. En arrivant par l'est, on voyait dépasser les clochers aériens de la cathédrale, d'innombrables clochetons et pinacles, qui faisaient, telles les cimes d'une forêt et quelques toits rouges, comme autant de promesses de chaleureuses bienvenues aux moult visiteurs. La ville était reliée à ses faubourgs par 3 ponts ouvragés qui enjambaient la rivière, dont le plus grand ressemblait à un arc de triomphe et présentait une magnifique sculpture d'une vierge portée par des anges. Puis, quand on passait la porte Santa Maria, la plus grande et la plus élégante, on découvrait ce pittoresque enchevêtrement d'antiques rues, étroites pour la plupart, hormis celle qui ceignait la place principale de forme ovale, où l'on pouvait admirer un grand bassin et de beaux palais alentours. Les plus riches demeures de la ville, soutenues de piliers, étaient auprès du grand marché. Là, c'étaient de grandes maisons, soignées et à l'aspect joyeux, dont la construction rappelait souvent les styles arabes et byzantins. Dans la grande artère qui menait à la cathédrale coulait un ruisseau, sagement conduit au milieu des promeneurs par un petit canal. Burgos, enfin, comptait un grand nombre de chapelles, d'un travail merveilleux, qui, pour leur grandeur et les trésors qu'elles abritaient, eussent bien mérité le nom d'église. Ville florissante, centre d'un commerce considérable avec ses manufactures et ses foires, célèbres pour les draps qu'on y vendait, elle était toute l'année un foyer animé et coloré. Ses habitants étaient beaucoup hors de chez eux, et même le soir, car on soupait bien tard malgré le vent qui était ici fréquent et humide. Et il y avait quelque chose d'unique à voir passer dans les rues en pleine nuit, ces belles et fières castillanes, aux costumes clairs et chamarrés. Mais c'était aussi une ville pleine d'odeurs, et pas toujours des plus douces, car aux saveurs de ciboule et d'essence de rose, s'ajoutaient parfois celles de merluche et d'oignons bouillis. Parmi les plus belles œuvres que les maîtres maçons du vieux monde avaient réalisées là, il convient de s'arrêter un instant sur la cathédrale Santa Maria qui, quoiqu'inachevée, avait déjà un siècle, et que nous tenons pour la plus belle de toute l'Europe. Car, par la grâce de ces doctes bâtisseurs, l'édifice magistral ou majestueux parlait à l'âme et à l'esprit, obligeait à l'humilité, quand bien même on ne fût point religieux. La façade était dans ce style propre à l'époque, et que l'on dit gothique aujourd'hui. Les clochers étaient comme 2 bras ouverts, invitant à la visite ou au recueillement. Et derrière eux s'élevait une vaste tour carrée à 8 créneaux. Du côté opposé, on se laissait surprendre par un bâtiment octogone à tourelles pyramidales qui se dressait dans une myriade d'ornements, de statues, de ciselures et de feuillages. Il avait fallu aux architectes